Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. En mission dans la Cité Rose, une résilience au service des autres. Aujourd'hui, je reçois Martin Petit, créateur de contenu. Cet épisode intervient dans le cadre du podcaston, une initiative caritative qui mobilise le monde du podcast au profit de magnifiques associations caritatives. En 2022, Martin est parti en Jordanie avec Médecins Sans Frontières et c'est cette association médicale humanitaire internationale que Good Visa a choisi de soutenir. Pour cette première partie, Martin vous racontera son voyage et tout le travail accompli par MSF France. Entre la visite de la structure hospitalière de MSF à Amman, la capitale jordanienne, et les rencontres qu'il va faire, Martin va nous livrer à quel point cette expérience a été bouleversante et pleine d'humanité. Dans la seconde partie, qui sortira la semaine prochaine, Martin reviendra sur cette résilience incroyable qu'il incarne. Alors, à vous donc, prêts, écoutez, on compte sur vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Martin.
Salut Camille.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu t'en comment aujourd'hui?
Mais très bien.
Ouais.
Ça va toujours.
Écoute, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Good Visa. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avec tes propres mots et terminer peut-être par un petit fun fact, une information que tout le monde n'a pas forcément?
Ah, ça peut être pas mal. Alors moi, je m'appelle Martin Petit, j'ai 32 ans, j'allais dire 31, mais non, ça y est, la barre des 32 est là. Je vis à Bordeaux, je suis originaire de Tours. Moi, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, mais je suis aussi sur YouTube. Et je parle de mon quotidien de jeune homme en fauteuil roulant à la suite d'un accident que j'ai eu il y a, ça fera 7 ans cet été. Voilà, et après, ma petite fun fact, un truc que je dis pas souvent, la première fois que j'ai pris l'avion, à 24 ans, j'ai pris l'avion et le mec à côté de moi, c'était Jason Derulo.
C'est pas vrai.
Ouais. J'en parle pas souvent de ça, mais je sais pas, ça m'est venu là. Et non, petite histoire assez rigolote, j'avais gagné en fait un truc à l'époque, tout frais payé par Énergie pour aller assister aux Énergie Music Awards. Donc l'avion, le train, ils sont venus nous chercher en limousine à l'aéroport. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'allais, ou la deuxième fois de ma vie que j'allais à Cannes, dans un monde qui était... J'étais à milieu de m'imaginer un peu la vie là-bas, etc. Parce que moi, j'étais un peu à Tours, donc c'est vrai que j'étais un peu dans mon prisme. Et là, bah, je me retrouve à côté de Jason Derulo dans l'avion, quoi. Donc improbable. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, qui est encore plus rigolote que l'anecdote en elle-même, c'est que je ne l'ai pas reconnu, donc... Et je l'ai su après. Et en fait, j'avais un peu parlé avec lui, parce que vu que c'était la première fois que je prenais l'avion, je lui ai demandé si... Bah, déjà, il était français ou anglais, donc il me dit anglais, donc en anglais... approximatif, enfin dans un anglais approximatif, je lui demande si je peux ouvrir le hublot pour voir comment ça se passe au décollage, et puis il m'a dit oui, puis lui il a dormi tout le long, et c'est après que j'ai su que c'était lui, parce que tout le monde l'a reconnu, sauf moi. Voilà.
Mais c'est fou parce que je me suis toujours demandé si des gens gagnaient ce type de concours, donc ça existe.
Ouais, c'était, mais d'ailleurs c'était Instagram à l'époque, et il y a très très longtemps, hein, donc j'avais pas du tout la même visibilité que j'ai maintenant, c'était entre copains, etc. C'était en plus au tout début des réseaux. Et en fait, il y avait un jeu qui se passait chez Darty. Moi, j'ai fait mon alternance là-bas. Et en fait, il y avait un jeu qui était accessible à tout le monde, hein, les clients, mais potentiellement bah, aussi les gens qui y travaillaient. Et en fait, j'avais fait une photo avec ma collègue. Il y avait un kakémono, il fallait faire une photo devant. En fait, un kakémono avec un tapis rouge et il fallait faire une photo un peu devant. Donc moi, je me suis mis torse nu vu que je faisais beaucoup de muscu pour mettre toutes les chances de mon côté. On s'était à moitié déguisé à la con, et puis on avait gagné sans trop forcer, je pense. Et puis bref, du coup, on avait gagné le truc. Donc c'était au tout début des jeux concours, d'Instagram, etc. Donc ouais, petit moment sympa dans ma vie. C'est la première fois de ma vie aussi où j'ai porté un costume, et c'était rigolo.
Voilà,
c'était une petite parenthèse dans ma vie qui était marrante.
Bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et donc pour la petite histoire, je raconte toujours comment les invités se retrouvent là. Donc moi, ça va faire 2-3 ans que je te suis sur les réseaux. Mm-hmm. En plus, bah, on est tous les deux sur Bordeaux, donc...
Ça facilite
les choses. Et en fait, dès que j'ai lancé mon podcast, je t'avais en tête pour les potentiels invités. Et bah, clairement, ça fait 6 mois que je te harcèle pour... cet épisode. Non, j'exagère un peu.
Non, t'exagères pas.
Et ça aussi, je me dis, bah voilà, ça montre que des fois, à force de persévérer, ça peut finir par se concrétiser. Donc,
Il y a ça, et puis il y a un peu, je pense, la temporalité de chacun. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas quand on insiste. Déjà, je pense qu'il y a une manière de le faire. Si on est là à se rencontrer aujourd'hui, c'est que potentiellement ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai que des fois, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de sollicitations. Je me souviens d'avoir dit un oui à un moment donné. Et en fait, à partir du moment où moi, dans ma tête, je m'engage pour quelque chose, bah, je vais au bout du truc. Donc après, c'est juste pas que j'ai pas envie ou que ça m'intéresse pas. Ou voilà, c'est juste que des fois, bah, ça sort de ma tête parce que j'ai aussi mes projets. J'ai plein de choses à penser, et puis bon, épuisé, je suis en fauteuil roulant, donc on a aussi une charge mentale qui est énormément impactée, hein, pour en parler. Et du coup, c'est vrai que bah, dans nos quotidiens, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser, au-delà de même tout ce qui est externe un peu à nos vies. Hein, et du coup, bah, c'est vrai que des fois, c'est difficile aussi de répondre à toutes les sollicitations. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis ravi, et c'est toujours un plaisir de faire des petits podcasts comme ça.
Super. Et en plus, je suis d'autant plus contente qu'on fasse cet épisode ensemble parce qu'il intervient dans le cadre d'un podcast-ton. Mmh. Donc en fait, c'est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. Et l'année dernière, ils ont réuni plus de 300 podcasteurs et podcasteuses qui ont édité un épisode spécial de leur podcast pour mettre en avant une association ou une ONG. Et c'est en fait le seul événement qui réunit le monde du podcast et le milieu associatif. Et l'objectif commun, c'est de collecter un maximum de dons, bien évidemment, pour défendre plein de causes. Et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on va mettre en avant Médecins Sans Frontières. Mmh. Parce que donc on va y venir, tu as pu voyager avec eux en Jordanie. Et c'est pour ça aussi que je ne lâchais pas mon idée de te recevoir. Et je me dis aussi que le plan est toujours parfait parce que, comme tu parlais de temporalité, ça s'est fait au bon moment, je trouve, parce que ça rentre dans ce cadre-là. Donc quand même, peut-être pour rappeler à tout le monde ce que c'est Médecins Sans Frontières. Donc c'est une association médicale humanitaire internationale qui a été créée en 1971 par des médecins et des journalistes. Et depuis 50 ans, Médecins Sans Frontières apporte une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé sont menacées, en France ou à l'étranger. Ça, je savais même pas, tu vois, que c'était aussi en France. Et c'est principalement en cas de conflits armés, mais aussi des épidémies, des pandémies, des catastrophes naturelles. Et en fait, ils vont mettre en place un large éventail de soins. Ça va aller des consultations, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des soins psychologiques. Voilà, apporter vraiment des secours matériels et sanitaires pour améliorer les conditions de vie de personnes affectées par une crise. Et ça rassemble en fait à la fois les professionnels de santé, mais pas que, parce qu'il y a aussi derrière toute la logistique, l'administration. Et ce que je trouvais important de souligner, notamment en plus en ces temps de conflits et de guerres qu'il y a en ce moment, Médecins Sans Frontières agit dans un esprit de neutralité en fait, et ne prend pas parti en cas de conflit armé, mais elle peut toutefois être amenée à dénoncer et critiquer les entraves à son assistance humanitaire, et c'est vrai qu'on l'a malheureusement constaté dans l'actualité ces derniers temps. Donc voilà, Médecins Sans Frontières, depuis ces 70 pays dans le monde dans lesquels ils interviennent, avec plus de 90 opérations d'assistance médicale et plus de 41 000 personnes employées chaque année. Et bien évidemment, dans le cadre de ce podcast, je mettrai les liens pour effectuer un don auprès de Médecins Sans Frontières. Et vous pouvez même le faire dès maintenant, parce que je sais, quand on écoute un podcast, on aime bien faire plein de choses en même temps. Vous pouvez même envoyer un don par SMS, ça se fait tout de suite, au 92 673, 92 673. Et vous avez juste à envoyer « don » et le chiffre 2 pour donner 2 euros, « don 5 » pour donner 5 euros et « don 10 » pour donner 10 euros. Donc voilà, vous pouvez le faire dès maintenant, et sinon, effectivement, je mettrai les liens. Donc maintenant, Martin, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça s'est passé, en fait, avec Médecins Sans Frontières? Comment tu t'es retrouvé à partir en Jordanie, il y a maintenant 2 ans?
Ça va faire 2 ans. C'était en mars, on est en 2024, c'était en mars 2022. Donc déjà, je rebondis quand même sur ce que tu dis par rapport aux dons, parce que moi, j'ai appris quelque chose... Quand j'ai été chez eux, et Dieu sait que j'ai oublié beaucoup de choses, parce qu'en 2 ans il s'est passé aussi beaucoup d'événements dans ma vie, de projets, etc. Mais la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était sur le côté don. effectivement, je pense que c'est hyper important de le faire. Et moi-même, quand je t'en parle, je me dis, tu vois, des fois, ça sort un petit peu de ta tête, parce que des associations comme celle de Médecins Sans Frontières, j'ai appris qu'elles ne vivaient que des dons.
Exactement, et
En
j'ai
fait,
même
elles...
une donnée, si tu peux me, si
Ouais,
je peux me
vas-y, je t'en
permettre.
prie.
C'est en fait la garantie de l'autonomie et de
Voilà,
l'indépendance de
exactement.
l'association est assurée par la générosité des donateurs privés. Et en fait, en France, par exemple, en 2021, il y a 98,6% des ressources de Médecins Sans Frontières qui étaient d'origine privée.
Ouais.
C'est incroyable.
Ben, j'étais le premier surpris aussi quand j'ai su ça. Et effectivement, ben, tu l'as dit avant moi, c'est que ils gardent ça pour avoir leur libre arbitre, je pense. Et du coup, voilà, c'était important de le souligner. Et je trouve ça génial que tu vois, t'invites les gens à participer parce que pour avoir constaté, même si c'était dans un temps très très restreint, ce qu'ils font, c'est essentiel en fait. Parce que nous, on a quand même cette chance d'être des privilégiés. On va pas se mentir, même si on râle beaucoup et qu'on doit râler et qu'il y a une disparité des richesses qui fait que il y a des clivages qui se créent. Il y a quand même des assos comme celle-ci qui sont garantes de plein de choses et ça permet aussi de relativiser. Parce que l'idée aussi de vouloir d'avoir eu l'opportunité de partir et d'être parti, c'est que je savais que j'allais me prendre une claque et j'en ai pris une et Dieu sait que j'en ai pris dans ma vie. Et pour autant, quand tu vois l'essence même de leur métier, de leur travail, de l'investissement qu'ont les équipes et de voir le bien qu'ils font autour d'eux, ça fait du bien. Parce qu'encore une fois, certes, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans peut-être la France ou dans des pays occidentaux, mais il faut dire que là-bas, ils n'ont pas forcément les mêmes chances. Quand tu vois des jeunes hommes qui se prennent des balles ou des mecs qui tombent sur des bombes, qui se retrouvent amputés, qui ont des prothèses. Qui sont pas du tout adaptés, encore que, parce qu'il y en a qui se retrouvent avec des pattes blessées et ils peuvent même pas se faire opérer parce que il n'y a pas de personne autour d'eux pour le faire. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Médecins Sans Frontières, je sais qu'ils ont des antennes et des équipes en fait qui vont, comment dirais-je, ils vont sélectionner, c'est un bien grand mot, sélectionner c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas là ils vont tomber sur des personnes pour lesquelles ils sont sensiblement. Dans la possibilité de les aider. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, comment s'est passée cette opportunité que j'ai eue? Eh ben, écoute, c'est les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, alors je le dis aussi beaucoup, ça a été très thérapeutique pour moi. Je vais écourter parce que sinon, ça va être très long et c'est pas l'objet de la question. Mais voilà, ça a été très thérapeutique. J'ai vite compris aussi la visibilité que j'avais entre mes mains. La responsabilité que j'avais envie d'avoir et j'ai toujours vu les réseaux sociaux comme un outil en fait pour plein de choses dans la vie et notamment saisir des opportunités créer des endroits de réflexion peut-être aussi c'est le rôle que je me donne d'avoir c'est d'être fédérateur dans un monde qui est de plus en plus clivant. Et l'opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai été contacté par une jeune femme qui me suivait à titre perso sur les réseaux, qui travaillait du coup pour l'association au siège à Paris. Et on a longuement échangé pendant, je crois, plus d'un an. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'à l'époque, en plus de ça, je crois que tu avais la période Covid, tu as eu les conflits aussi israélo-palestiniens, parce qu'à la base, j'étais dans la possibilité de partir. En Palestine, à Gaza, et en fait, à l'époque, alors c'était pas comme c'est le cas aujourd'hui, mais ça commençait déjà un petit peu à péter, et c'est vrai que même pour moi, etc., déjà, moi de dire ça à mes parents, de dire tu pars en Palestine, ça les rassurait pas forcément de trop, moi non plus, hein, je vais pas te le cacher, mais pour autant, je pense que ça aurait été une expérience qui aurait été intéressante, non pas que je veuille prendre parti, etc., parce que c'est un conflit qui est très complexe et je pense que j'ai pas les tenants et les aboutissants, je suis pas un géopolitique. Moi, ce qui me peine et ce qui me chagrine, je pense qu'on est unanime pour les gens humains à dire ça, hein. Pour ceux qui ont un minimum d'humanité, quel que soit le parti, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui sont sous les bombes, il y a des attentats qui sont faits en Israël, enfin voilà, il y a pas de parti pris à prendre en fait, c'est, je trouve ça dégueulasse en fait de voir les gens aussi qui vont attiser cette haine-là. Et c'est aussi peut-être le rôle que j'ai envie d'avoir, c'est me porter garant, sans être bisounours non plus, de cette paix qui devrait nous habiter, parce que bon, on a bien pu s'y gagner, et Dieu sait que j'en sais quelque chose, c'est que bah, moi c'est l'amour des gens hein, qui m'a permis de m'en sortir, de me reconstruire. C'est l'amour des gens qui ont de leur métier, les soignants qui m'ont aidé à me reconstruire, à sauver ma vie. C'est l'amour des personnes qui c'est des petits gestes, des gens qui vont t'allumer une clope quand t'es en centre de rééducation, et pourtant le mec il a pas la même religion que moi. Ou enfin tu vois, genre quand tu te retrouves au plus bas dans ta vie, quand t'es en centre de rééducation, et là je parle par expérience personnelle, que tu sois noir, arabe, juif, musulman, bouddhiste, chrétien, peu importe en fait, on est tous dans la même merde à ce moment-là, on est tous dans le même bateau, et en fait il y a une entraide qui est génial, et pourquoi en fait on arrive à le faire dans des moments comme ça, et pourquoi on n'arrive pas à le faire à des échelles beaucoup plus grandes. Donc voilà, moi j'ai envie de garder cet universalisme et cet humanisme qui est important, je pense. Voilà, après il y a plein de choses que je maîtrise pas, et bref, du coup tu vois, je m'éparpille encore. Je t'avais dit que j'allais beaucoup parler, mais c'est bien aussi parce que c'est des questions qu'on me pose jamais, tu vois, c'est souvent très lié à mon accident, et là c'est cool, c'est que je peux m'exprimer sur des choses dont je m'exprime pas souvent.
Et c'est exactement ce que je te disais en off avant qu'on commence, où justement dans le podcast, j'aime bien avoir des invités aussi pour qu'ils arrêtent de pas de raconter la même chose, mais qu'ils puissent s'exprimer voilà, sur d'autres sujets. Donc je suis ravie qu'on puisse le faire.
Que même pour nous, je trouve ça chouette, tu vois, et puis de prendre certains axes qui sont différents, et c'est chouette aussi, tu vois, parce que ça nous permet nous aussi de réfléchir au sujet, d'en parler, et le fait d'en parler, ça permet aussi d'intégrer peut-être nos propres réflexions finalement et de les mûrir. Et donc la jeune femme en question de Médecins Sans Frontières me contacte sur les réseaux à une certaine période, je pourrais plus te dire précisément quand. Et donc on fait des visios avec Alexis qui travaille lui aussi au siège à Paris. On fait des visios avec les équipes de la Jordanie, de Amman, parce que effectivement il y avait plusieurs possibilités de là où je pouvais partir. Et celle qui s'est offerte à moi, ou l'opportunité que j'ai eue, en fonction des dispos, des équipes aussi sur place, etc., c'était Amman. Donc après, moi, je me suis aussi adapté au, on va dire, au, pas au cahier des charges, mais aux possibilités qu'avait Médecins Sans Frontières à ce moment-là. Et puis bon, bah, ça a été génial, parce que ça a été aussi un moyen pour moi de connaître davantage l'association, de voir concrètement comment ça se passait. Alors ça a été très ponctuel dans ma vie, et j'ai vu qu'une partie de leur action. Tu le disais toi-même, il y a plus de 70 pays dans lesquels ils sont actifs. Là, en l'occurrence, moi, j'ai vu que la Jordanie. Je sais que je l'ai vu sur tes fiches, c'est une de tes prochaines questions, mais c'était la première fois. Et du coup, ça a été une expérience très enrichissante. Ça m'a permis de relativiser et puis de mûrir aussi ma réflexion sur mon parcours, sur ma vie, sur la place que j'ai envie de prendre. Et sur ce qui se fait aussi à l'extérieur. Et c'est très, très stimulant, très enrichissant. Et je suis ravi de faire ce podcast parce que tu vois, même moi, je me surprends à raconter des choses que je parle pas souvent. Et je trouve que c'est important de valoriser aussi le travail qu'ils font, parce que comme je te disais, il est essentiel. Et voilà, donc pour revenir encore une fois à la question, je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois depuis et je me suis quand même éparpillé. Mais du coup, j'ai eu cette opportunité, ils m'ont contacté. Et puis voilà, je me suis aussi. J'ai fait une vidéo YouTube pour retracer un petit peu le pourquoi de on était là-bas. Je sais aussi que eux ont fait un montage de leur côté sur moi, le fait d'être allé chez eux. Donc il y avait mon regard et le leur. Et je suis parti avec Romain, qui est un copain, qui est journaliste de formation, qui est vidéaste, et qui a pu m'accompagner sur ce projet-là. De façon voilà à avoir une certaine ça aurait été très compliqué pour moi de faire de l'interview, de faire un joli travail un travail un peu journalistique. Déjà Romain avait cette carte là parce que c'est sa formation, il fait de la vidéo en plus de ça, et puis bon bah moi mes contraintes physiques c'est que je suis quand même tétraplégique, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là, mais j'ai une tétraplégie certes qu'on qualifie de basse, mais qui reste un handicap lourd, j'ai pas l'usage des doigts, c'est ce qui caractérise ma tétraplégie. Donc on voit un petit peu bouger le haut, mais il n'empêche que voilà, j'ai mon autonomie qui est quand même entachée. Et pour le coup, moi, si j'avais dû partir, mettre les micros, les lumières, les vidéos, suivre, machin, ça aurait été très compliqué. J'avais cette volonté, voilà, de ramener une belle vidéo. Et pour ça, j'avais besoin de Romain. Et d'ailleurs, ma frustration, et j'en parle, parce que j'en ai certainement pas parlé jusque-là, parce que tout va trop vite sur les réseaux sociaux, mais ma frustration, c'est de me dire, putain, t'es suivi par autant de personnes, et ta vidéo, elle est pas rendue plus visible que ça. Et même moi, par rapport à ma... à l'investissement que j'ai envie d'avoir, émotionnel, psychologique, et de me dire putain, j'ai une visibilité et j'ai envie de la mettre à contribution pour des actions comme celle-ci, et de voir que j'ai pas forcément le retour, je me dis putain, genre, je suis très frustré parce que même pour l'association pour laquelle je pars, là en l'occurrence Médecins Sans Frontières, je me dis je suis pas à la hauteur en fait de finalement ce qu'ils font, et ça a été psychologiquement, j'en ai même d'ailleurs pas parlé, jamais. Mais je me dis, putain, genre, quelle est ma place en fait? Je suis parti, j'ai voulu faire un truc, parce que ça leur a coûté quand même de l'argent. Et pour autant, il n'y a pas eu tant de vues que ça. Et du coup, je suis déçu. Je suis déçu parce que c'est des actions qui mériteraient d'être connues. Et je pense qu'on a fait un beau travail en plus de ça pour le mettre en avant. Et je pense que ça part aussi de la responsabilité de chacun de s'intéresser à des sujets, de réfléchir, de prendre ses responsabilités. Et tu vois, là, il y a quelques jours, j'ai tourné pour une émission qui sera diffusée en janvier 2025 dans les yeux d'Olivier. Et d'ailleurs, à un moment, il me pose cette question. Pourquoi, d'après toi, le handicap, ça avance pas? Alors, moi, le biais que j'ai, c'est que je suis concerné, donc j'ai le sentiment que ça avance pour certaines choses. Après, pour avoir aussi repris enfin, entendu des discours d'autres personnes qui ont 20, 30 ans de handicap comme le mien qui se sont exprimés sur le sujet, ils ont quand même vu une évolution. Et pour répondre à la question d'Olivier, je lui dis, ben en fait, c'est ce que je te disais là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, pourquoi le sujet avance pas, c'est que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, ne s'intéressent pas. Je pense que chacun a un pouvoir d'action, un champ de compétences, a un poste à différentes responsabilités selon les échelles, etc. Et en fait, je pense que tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience du pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. Et d'un autre côté, je me fais l'avocat du diable et de ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux pas en vouloir aussi à des gens de pas s'intéresser à des sujets tant qu'on l'aura pas mis sous le nez. Et du coup, c'est un peu frustrant aussi, là, encore une fois, pour moi, c'est que je me dis, putain, genre, t'essaies d'interpeller un maximum de personnes. Évidemment, il n'y a pas forcément la place pour tout le monde, c'est compliqué de se faire sa place, notamment sur le côté médiatique. Mais je me dis, il y a des gens qui sont très clivants, qui ont la parole, qui font du divertissement, qui font rire, et puis il y a des gens comme moi qui essayent de porter des messages, et ça prend énormément de temps de gagner en notoriété pour mettre en avant toutes les choses que j'essaye de mettre en avant, donc que ce soit le handicap, que ce soit des actions comme j'ai faites là avec Médecins Sans Frontières. Et ce que je voulais dire, c'est que les sujets qui nous concernent, finalement, ils concernent aussi toute la société. Toi, je parle souvent d'accessibilité. Si on rend quelque chose d'accessible pour une personne dans ma situation, on le rend accessible finalement pour tout le monde. Pour des parents qui ont des poussettes, pour des personnes âgées, pour des gens qui ont une immobilité temporaire avec une fracture. Et je pense que chacun, vraiment chacun, à partir du moment où il intègre la différence, il intègre que il n'y a pas que son prisme à lui qui existe, peut-être qu'il se rend compte qu'il pourra mettre des petites actions en place. Et des fois, c'est pas grand-chose. Mais voilà, les petits ruisseaux forment les grandes rivières, donc petite goutte par petite goutte, c'est important. Et voilà. Et j'ai perdu le fil de. Il y avait encore plein de choses à dire, mais ça y est, j'ai trop parlé,
Mais
mon
non,
cerveau surchauffe.
t'inquiète pas, on va. Et effectivement, tu as abordé plein de points sur lesquels on va revenir. Et c'est pour ça que je suis vraiment hyper contente de participer à ce podcaston, parce que c'est vraiment plein de podcasts, comme tu disais, qui ont aussi beaucoup de notoriété. J'espère que le mien aussi va prendre de l'ampleur les mois et les années passant. Mais justement, il y a des podcasts très connus qui vont mettre en avant aussi des associations. Et je trouve ça génial que pendant une semaine, donc ça va avoir lieu que je dise pas de bêtises, du 25 au 31 mars. Voilà, toutes ces associations qui vont être mises en avant. Mais si on revient effectivement un petit peu plus sur cette mission du coup de Médecins Sans Frontières à Amman, donc en fait en 2006, ils ont ouvert une structure hospitalière, spécialisée dans la chirurgie reconstructrice. Et en fait, ils expliquent, enfin tu l'expliques dans la vidéo et dans leur vidéo également, et je mettrai le lien là aussi. À l'époque, ça a été ouvert pour les patients victimes de la guerre en Irak. Et le programme ensuite, il a été étendu pour accueillir d'autres patients de Palestine, du Yémen et de Syrie. ils ont eu une opération sur place, en fait, ces personnes-là, et plusieurs mois ou plusieurs années après, ils ont besoin de, bah, d'une chirurgie reconstructrice. Et j'ai noté que tu disais dans le reportage, la finalité, c'est de se réapproprier un corps qui a été meurtri et comment ils vont revivre avec ça. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette image où tu rentres dans le bloc et où tu passes aussi dans la salle de rééducation, et ça te rappelle des souvenirs pas forcément bons. Et en plus, on en parlait avant de commencer, où des fois il y a des situations où toi t'y penses peut-être plus forcément, mais ton cerveau vient te rappeler que si l'expérience elle a été là. Et
ouais, c'est terrible. Et en plus de ça, ce qui est assez fou, c'est que à force d'en parler, bon, je m'affirme aussi par rapport à mes émotions, parce que j'ai envie aussi de pas me perdre par rapport à elle, dans le sens où quand t'es pris d'émotion, bah forcément t'es... Des fois je me dis j'ai plus de difficultés à transmettre mon message, etc. Mais comme tu le dis, il y a des moments, je pense, dans ta vie où ton cerveau il te fait des petites piqûres de rappel de... Bon bah tu te souviens quand t'étais là-bas, et puis tu sais, quand t'as un petit peu de fatigue et tout, bah l'émotion elle va vite reprendre le dessus. Donc je m'affirme quand même davantage par rapport à elle, parce que bon, ça, le temps fait son œuvre aussi. Après, bah, c'est vrai que... Tu vois, là, tu me parles de... Je me souviens parfaitement du moment de la vidéo. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans la vidéo, c'est que c'est un peu un journal intime. Tu reviens aussi sur qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là. Et je me souviens que, ouais, quand je suis rentré dedans, ça m'avait fait quelque chose. Parce que, bon, bah, tu vas pas dans des salles de chirurgie tous les jours. Et puis, qui puisait dans le contexte dans lequel j'étais. Donc, parce que bah, j'ai vu des enfants qui avaient été touchés par les difficultés liées à la guerre, etc. Et c'est là aussi tu prends des claques, quoi. Ouais. Genre, tu vois les gamins, ils sont hyper contents que tu sois là, ils discutent avec toi. Et puis tu vois aussi des jeunes hommes qui avaient mon âge, tu vois. Je me souviens, alors je me souviens plus de son nom, mais il y a un jeune homme qui a pris une bombe. Du coup, il avait la jambe qui était très meurtrie. Et en fait, pendant des années, il a souffert parce qu'on s'était pas occupé de lui. Donc en fait, sa jambe, elle était là, mais inerte. Et en fait, bah, le jour où il s'est fait, entre guillemets, amputer et qu'on lui a mis à dispo une prothèse, qu'en plus de ça, tu vois, il y a vraiment toute une mise en œuvre pour... tu vois, il n'y a pas que l'opération en tant que telle, il y a aussi la continuité de la vie, comment ils vont s'affirmer derrière, etc. Donc ils vont aussi les orienter peut-être pour des cursus scolaires, pour des métiers, pour participer à l'émancipation financière temporairement, de façon à ce qu'ils peuvent... qui puissent dans un temps court ou moyen, voilà, d'avoir un pécule pour pouvoir se décharger de cette charge mentale de je manque d'argent. Du coup, ils peuvent se concentrer sur le reste, etc. Et ils mettent aussi à dispo des logements, etc., de façon à pouvoir aussi accueillir et les personnes concernées et les familles. Donc même là, tu vois, quand j'en parle, c'est là qui est terrible, c'est que je suis le premier à dire qu'il faut qu'on soit conscient par rapport à beaucoup de choses, et pour autant il s'est passé 2 ans, alors j'ai passé que 5 jours, tu vois, en Jordanie, et pour autant, bah tu vois, sur ces 5 jours, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que finalement, même moi, je me dis, putain, je culpabilise, parce que j'ai participé à quelque chose, et finalement, bah tu vois, j'y suis moins investi maintenant, parce que, bah, comme tout le monde, j'ai été repris par mon rythme de vie, par mes projets, etc. Et du coup, voilà, c'est toujours une ambivalence d'émotions et de travail psychologique, parce que même moi, au moment là où je te fais ce podcast-là, je me dis, putain, genre, toi, il y a peut-être encore des choses que j'aurais pu faire, mais encore une fois, tu peux pas tout faire non plus. Tu peux pas faire tout non plus, et je pense qu'il y a des gens qui sont là pour le faire, et que mon rôle, il est peut-être pas d'être là concrètement tout le temps, mais d'avoir des piqûres de rappel et de profiter justement de ce que j'essaye de faire, hein, de ma visibilité, de ma notoriété pour... à mon humble échelle, hein, pour justement rappeler peut-être des sujets. Donc c'est pour ça aussi je souligne aussi le fait que t'aies choisi cet axe-là, parce que ça permet d'en parler et je l'ai jamais fait jusque-là. Donc pour ça, merci.
Ouais, c'est moi qui te remercie. Et effectivement, tu vois, quand tu parlais de claques, j'ai noté les rencontres que tu as faites dans cette vidéo. Donc tu parlais de cet homme qui a été blessé par un obus. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'il dit lui-même qu'il n'est pas gêné par le regard des autres, mais qu'il essaye au contraire de sensibiliser les gens. Mmh. Et il essaye d'être un facteur de changement et de prise de conscience. Et ça, on reviendra plus tard tout à l'heure, mais... Je me suis dit, c'est fou, tu vas à l'autre bout du monde et t'as rencontré une personne qui partageait vraiment le...
Alors lui, c'est Mohamed, si je me trompe pas, qui est la dernière personne interviewée, qui est en fauteuil comme moi, qui est paralysée comme moi, Donc déjà, il y a un lien d'affect qui va se créer inévitablement, parce qu'il est concerné par les mêmes sujets que moi. Et c'est marquant, parce que c'est un jeune homme intelligent, qui est en fait un père accompagnateur. Donc père, on peut le dire déjà d'ailleurs P-A-I-R ou P, accent grave R-E. Mais c'est quelqu'un qui profite effectivement de ce qui lui est arrivé pour aider les autres à s'affirmer par rapport à leur situation, qui vivraient des situations similaires. Moi, je suis en fauteuil, j'ai pas vécu, je sais pas ce que c'est que de me prendre une bombe et de me retrouver paralysé du jour au lendemain. Moi, c'est un accident qui est... Donc forcément, si je dois m'exprimer sur ça, s'il y a des personnes là-bas qui sont concernées un peu par les mêmes problématiques de comment on se retrouve en fauteuil, comment on se retrouve amputé, bah forcément, son discours, il aura plus de poids que le mien par rapport à ça. Et bref, un garçon qui avait un peu, je pense, le même désir que moi d'aider les autres. Et ça, c'est très personnel, et sans même s'en être parlé, parce que mon anglais était quand même approximatif. On a un peu échangé, mais c'était quand même... c'est un exercice aussi pour moi. Mais je pense que voilà, ce qui donne aussi du sens à sa vie, c'est de le redéfinir. Et je pense que lui comme moi, on l'a redéfini, toi, sans même se l'être dit. Je pense pas qu'on ait évoqué le sujet, en tout cas, j'en ai plus le souvenir. Hein. Je te dis encore une fois, ça date. En 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais je pense que ouais, on a redonné du sens à nos vies dans le sentiment qu'on pouvait être utile aussi pour les autres. Et tu vois, genre, même moi, je me souviens d'un truc, je te dis ce qui me passe par la tête. Mais quand je suis là, je vois son fauteuil et je vois le mien. Et je me dis, tu vois, il a pas le fauteuil comme nous on peut avoir en France, tu vois. Et je me dis, la ville est moins accessible. Et tu vois, c'est frustrant aussi parce que ça a été qu'une après-midi que j'ai passé avec lui. Donc finalement, j'ai pas pu non plus échanger sur énormément de choses. Et tu vois, même là, je suis en train de me rendre compte que on aurait peut-être pu continuer à échanger aussi. Tu vois, ça aurait été intéressant.
Écoute,
mais ça peut être aussi l'occasion de...
C'est ce que j'allais dire. Exactement. Pourquoi pas. Et puis là, en plus, comme tu dis, ça te permet de faire peut-être un bilan 2 ans après. Tu vas peut-être en reparler aussi. Et juste pour terminer, par rapport au témoignage des gens que tu as rencontrés, je pense que ce qui m'a le plus frappé aussi, c'est un homme qui a été pris dans une explosion de voiture en Irak. Et il raconte ça de manière... c'est le monsieur dont tu as parlé qui avait un problème avec sa jambe.
Ouais.
Et il raconte ça... de façon tout à fait normale, et c'est là que tu as les équipes de Médecins Sans Frontières qui expliquent également qu'il y a 6 à 7 opérations par jour, et qu'au cours des 10 dernières années, l'hôpital est devenu un peu une plaque tournante de l'innovation médicale, à offrir des services et des solutions de pointe. Et il te montre aussi un moment l'utilisation de la 3D dans un contexte médical, où je trouve ça impressionnant, on te montre les prothèses pour les mains. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces innovations là à l'autre bout du monde, de tous ces progrès?
Déjà, ce qui était fascinant, c'est de te dire le système là, de 3D, c'était la première fois que je le voyais. Et pour autant, j'étais à Amman. Alors Amman, attention, hein, c'est quand même la capitale, c'est quand même une ville. Alors c'est, je suis pas assez connaisseur du pays pour affirmer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a de la richesse quand même là-bas. Pour autant, ça reste quand même un pays où il y a quand même du conflit autour. C'est le seul pays quand même dans cette enclave-là qui reste géopolitiquement stable. Et effectivement, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils aient ce genre de matériel-là. Et puis on a vu concrètement ce à quoi ils pouvaient servir. Ils pouvaient créer des prothèses qui allaient vraiment venir s'adapter en fonction de l'amputation. Par exemple, d'une personne qui a une main qui est amputée, ils vont pouvoir en fait, avec cette espèce de pistolet 3D, vraiment prendre toutes les mesures les bonnes. Ils ont des imprimantes 3D, etc. Ils sont à même en fait de créer différentes solutions pour différents usages, que ce soit de la cuisine, que ce soit pour préparer ses vêtements, etc. Et non, je trouvais ça génial déjà de pouvoir aussi les mettre en avant à travers le contenu qu'on avait créé avec Romain à cette période-là. Et puis, au-delà de ça, c'est que tu vois concrètement l'usage, tu vois. Genre, tu as le retour concret.
Ouais.
Tu as le retour concret de plein de choses. Alors après, je sais que tu avais aussi d'autres... d'autres choses, mais ça m'est un peu sorti de la tête et j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, notamment des personnes qui étaient brûlées et qui allaient créer des systèmes 3D par rapport à leur visage pour bien s'adapter, etc. Pour plein de choses que je maîtrise pas, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai peur de dire des bêtises.
T'inquiète pas. Et justement, en parlant d'innovation, je me permets une petite parenthèse où j'avais vu justement sur ton compte YouTube une vidéo où tu as testé un exosquelette. Mmh. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais que des innovations sont en train de devenir de plus en plus importantes dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux nous dire peut-être deux mots sur ton expérience avec le test de cet exosquelette ?
Alors, je pense que s'il y a davantage de choses qui se passent, c'est déjà, un, je pense que l'humain n'aime pas ce qui lui résiste. Donc, on essaie de trouver des solutions à beaucoup de choses. Et deux, je pense qu'il y a quand même un... Même si c'est très long, même si on le critique, même si on doit assurer de la récurrence dans nos propos, que ça nous coûte, qu'il faut assurer de la pédagogie pour dire plein de choses, je pense qu'il y a une métamorphose qui est en train de s'opérer quand même dans les consciences. En tout cas, je l'espère, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Notamment sur le fait que pourquoi on s'intéresse aussi à ces sujets-là, c'est peut-être tout simplement parce que les lieux deviennent un peu plus accessibles, donc les personnes handicapées peuvent accéder à des niveaux d'études supérieures, peuvent avoir un travail, peuvent avoir une vie affective, sociale. Et je pense qu'il y a aussi cette réalité, c'est que les gens commencent à s'intéresser aussi à des sujets parce qu'on en parle aussi davantage, parce que médiatiquement je parlais de responsabilité tout à l'heure. Les médias mettent en avant la différence et finalement on se rend compte que plutôt que de faire l'autruche, on est quand même beaucoup concerné. Il y a quand même 10 millions de personnes en situation de handicap en France. Alors il y en a 80% qui sont invisibles, mais ça fait quand même une grosse part de personnes qui sont concernées. Plus en plus de ça, les gens potentiellement qui sont aidants, qui sont des proches, etc. Donc t'as quasiment un tiers de la population qui est concernée directement ou indirectement. Et je me dis pourquoi on ne prend pas nos responsabilités tous ensemble et pourquoi on ne se fédère pas et on se ligue pas aussi ensemble pour faire avancer les choses qui sont essentielles. Et encore une fois, tu vois, on prend le problème de l'accessibilité, mais si on rend quelque chose d'accessible pour moi, on le rend accessible finalement pour tout le monde, pour une personne âgée, etc. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais pas me répéter. Et pour l'exosquelette, alors c'était une chouette expérience. Je pense que dans le cadre thérapeutique, parce qu'il y a quand même une nécessité à se mettre debout, on n'est pas fait pour rester assis toute une vie, pour des questions de limiter l'ostéoporose, pour le cardiovasculaire, pour
système digestif.
Le système digestif, pour plein de raisons, en fait, c'est hyper important de se mettre debout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des tables de verticalisation en centre de rééducation. Et ça, c'est vrai que l'avantage de l'exosquelette, c'est qu'en plus de ça, tu vas créer de la tension. Donc tu vas créer davantage de monde, t'es pas statique sur une table de verticalisation, donc c'est encore mieux. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'aspect psychologique de te mettre debout, d'être à la même hauteur que les gens, si demain tu veux cuisiner chez toi, tu vois, je regarde ma cuisine en même temps que je te dis ça, tu peux te mettre debout pour couper les légumes, pour machin, pour truc, ça peut être intéressant. Après, mon avis personnel sur le sujet, c'est que je trouve ça hyper cool et il faut encourager toutes ces démarches là. Après, moi je t'avoue que marcher à deux à l'heure dans la rue, ça peut être cool une fois de temps en temps, mais je préfère être sur mon fauteuil roulant. Je vais beaucoup plus vite. Et ma trottinette électrique que je peux adapter dessus. Ouais. Parce que voilà, mais encore une fois, c'est sans mauvais jeu de mots, et pour rester dans la thématique, c'est un pas vers du mieux. Et je pense que c'est important, en fait, d'avoir tous ces... Donc il faut encourager toutes ces démarches-là, toutes ces initiatives. Et évidemment que je pense à toutes les causes, mais que celle qui me concerne majoritairement, c'est celle du handicap, qui puisait le handicap physique, la paralysie, le fauteuil roulant. Donc forcément, j'ai une appétence et une envie de défendre au maximum cette cause que je connais au mieux, quoi. Je la vis au quotidien.
Bien sûr. Et c'est pour ça que, encore une fois, je me répète un peu, je le mettrai partout pour l'épisode, mais si on peut, je me dis à mon petit niveau, récolter quelques dons pour Médecins Sans Frontières, se dire... ne serait-ce qu'un tiers des auditeurs de cet épisode envoient le SMS pour donner 2 euros, je me dis ça pourrait être génial pour toutes ces innovations, parce que toutes ces machines 3D pour construire les prothèses, ça coûte beaucoup d'argent. Et petit rappel, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais avec MSF, donc comme je disais, par SMS, vous pouvez le faire, sur le site en ligne, je crois que maintenant, il y a même par PayPal aussi, enfin, c'est hyper simple, prend 2 secondes.
Sauf erreur de ma part, mais je pense que c'est déductible des impôts.
C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'effectivement, il y a 75% du montant de votre don qui peut être déduit des impôts, donc j'ai envie de dire en plus, mais encore une fois, moi, je me retrouve un peu dans ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de je pousse un message alors que je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait un don pour une association. Donc écoute, tu sais quoi, je vais le faire.
Vas-y.
On va le faire en live.
Vas-y, je vais le faire aussi, tiens.
Mais voilà, allez, on prend. Je couperai pas ce passage au.
Volontairement. Comme ça, je peux finir la petite partie du cookie. Parce qu'on est dans la spontanéité, on aime ça. Regardez,
voilà.
On a le temps.
Un petit peu d'ASMR.
Voilà. Est-ce que vous voulez un peu d'ASMR? Et je vais finir, parce qu'il me reste un quart de cookie.
Donc, 92.
C'est pas mauvais.
673.
Alors, attends, faut que tu fasses comment? Faut que tu envoies un message,
c'est. Voilà, c'est comme si tu envoyais un texto. 92 673. Mmh. Et ensuite, tu tapes don, D-O-N, dans le
en
message.
En majuscule.
En
normal.
Ouais, en normal. Et collé au mot, tu rajoutes soit 2 pour 2 euros, soit 5 pour 5 euros, soit 10 pour 10 euros.
Donc et tu, là, et t'as des, est-ce que tu as un montant limité?
Alors, il mettait que jusqu'à 10. Donc, je me dis déjà, si l'audience peut mettre soit 2, soit 5, soit 10, on est déjà pas mal. Et après, si vous voulez faire un don plus conséquent en direct sur le site...
Alors, du coup, c'est prélevé de ton forfait.
Ouais. Donc écoute, j'envoie le message, on va voir ce que ça me dit. Afin de valider votre don de 10 euros, merci de répondre oui pour le confirmer. Donc je renvoie oui.
Oui, je vais le faire aussi, don 10.
MSF vous remercie pour votre don de 10 euros, ce montant sera débité de votre prochaine facture. Pour obtenir un reçu fiscal, ah bah tu vois, même avec le don SMS, tu peux avoir un reçu fiscal.
Auprès de un, en répondant OK au SMS. Alors moi j'ai reçu un autre truc et du coup là je vais mettre OK. MSF vous remercie pour votre don de 10 euros, ce montant sera débité. Pour obtenir un reçu fiscal.
Donc ça a marché aussi.
Mais c'est parfait. C'est génial.
Ben voilà. Donc voilà, j'espère que tout le monde sera boosté pour faire son don. Et maintenant, si on revient un petit peu sur la Jordanie, donc comme tu le disais, c'était la première fois que tu sortais de l'Union européenne et que tu découvrais une culture un petit peu plus orientale. Donc pour rappel, la Jordanie, c'est donc située au Moyen-Orient. C'est un pays d'Asie occidentale qui est frontalier avec Israël et la Cisjordanie à l'ouest. La Syrie au nord, l'Irak au nord-est et l'Arabie saoudite pardon, au sud-est, et c'est bordé par la mer Rouge aussi. Les trois quarts du pays sont envahis par le désert et ça a longtemps été peuplé exclusivement par des nomades. Mmh. Et donc comme on le disait tout à l'heure, la capitale c'est Amman, une population d'à peu près quand même 10 millions d'habitants. Et la langue officielle c'est l'arabe, mais l'anglais est beaucoup utilisé et enseigné à l'école, et même dans ton... dans ta visite de l'hôpital, on voit que tout est écrit à la fois en arabe, à la fois en anglais aussi. Et le climat varie selon les régions, mais en général, il est caractérisé par des étés chauds et des nuits assez fraîches. Est-ce que toi, donc tu y es allé en mars 2022,
ouais.
Est-ce qu'il faisait bon encore ou est-ce que tu as souffert de la chaleur?
Non, il faisait même pas très chaud. Hein.
Ah ouais?
Ouais, j'avais ramené ma doudoune et tout, et heureusement.
Ok.
Parce qu'on a un peu l'idée reçue, préconçue, que pays arabe égale pays chaud.
Ouais.
Et non, en mars, le soir, il faisait pas chaud. Après, ça dépend. Après, on n'est pas resté très longtemps. Puis je t'avoue que la première journée, c'est quand on est arrivé. Après, on a tourné pendant 2 jours à fond. Et ensuite, on a visité la Jordanie. Enfin, la Jordanie. On a visité Petra, qui était entre guillemets notre jour off. Et on est parti, du coup, on en a profité évidemment pour aller voir une des plus belles merveilles du monde. Donc voilà, et puis on est reparti le lendemain, vendredi. Et non, au niveau de la météo, il faisait pas chaud. Et même, je suis en train de repenser, même à Petra, il faisait même frais, je m'en souviens. Okay. Parce que moi, j'avais même froid avec ma petite doudoune et tout. Donc non, on est loin des idées...
Préconçues.
Préconçues, ouais.
Exactement. Et en préparant ce podcast, j'avais complètement oublié aussi que c'est quand même une monarchie parlementaire. Il y a le roi Abdallah II de Jordanie, et depuis 1999, il règne. Et j'aime bien dresser aussi dans chaque épisode un rapide historique du pays. Donc la Jordanie, ça abrite des sites archéologiques majeurs tels que la ville de Petra, une merveille du monde antique. Et à travers les âges, la région elle a été gouvernée par une succession de puissances. Donc il y avait les Nabatéens, les Romains, les Byzantins, les Ottomans et les Britanniques, avant de devenir un État indépendant seulement en 1946. Donc ça reste relativement assez récent. Et c'est vraiment un carrefour des civilisations, parce que la Jordanie, elle a longtemps vu passer sur ses terres des marchands d'Orient, d'Occident, des pèlerins venus d'Europe et des conquérants du monde entier. Et tout ça aujourd'hui, ça a laissé des, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, des traces dans, sur ces terres-là, toutes ces influences. Et on en parlait un petit peu aussi par rapport à tous ces conflits. La Jordanie, elle a été impliquée dans plusieurs conflits régionaux, mais elle a toujours réussi à, en tout cas jusqu'à présent, à maintenir une certaine politique de paix et de diplomatie et en jouant un peu un rôle de médiateur. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça, ce côté justement peut-être assez pacifique comme pays, sachant qu'il est entouré de pays qui sont impliqués dans plein de conflits?
Non, c'est une bonne question. J'ai reçu aucune insécurité.
Ok.
Vraiment aucune. Et t'es très loin de l'idée de, des pays arabes que tu peux te faire. Qui sont dans les médias, etc. On a tous des idées reçues, on a tous des, voilà, des interprétations, et puis bon, je pense que les médias, des fois, n'aident pas forcément aussi à bien des égards. Et pour le coup, non, un accueil incroyable, ils parlaient tous très bien anglais, donc très surprenant aussi, même à l'hôtel, etc. Donc ils parlaient tous très bien anglais, certainement bien mieux que moi. Non, j'ai ressenti aucune insécurité, je me suis senti tout de suite bien accueilli. Alors est-ce que la barrière de la langue, et puis vu qu'ils maîtrisent quand même très bien l'anglais, fait qu'il y a une espèce de comment dire, de dualité entre eux? Enfin, je pense que en tout cas la Jordanie, de ce que je ressens, c'est comme tu dis, c'est un peu le rôle médiateur. J'ai l'impression que c'est un peu un pays il y a un côté très occidental et un côté très oriental, et ils ont réussi à faire quelque chose de plutôt pacifique. Voilà, après, encore une fois, je suis resté si peu longtemps que je peux pas je peux juger que sur 5 jours, donc qu'est-ce que 5 jours dans tout un pays, etc. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été super bien accueilli, et ça a été super chouette. Toi même je me souviens, à Petra, t'avais un Abdallah, et il a vécu un an ou deux, genre à Toulouse en France, et du coup lui il a sa famille qui est un ancien, qui devait être des nabatéens de l'époque, tu vois. C'est, il vit là-bas dans les... Bon, il y a quand même une ville à côté, mais il y a encore des grottes. Il y a encore quelques familles, apparemment, qui vivent. Après, est-ce que, encore une fois, c'est pas l'interprétation, est-ce que j'ai bien tout compris, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, lui, il vit là-bas, et tu aurais vu la qualité de son français. Le mec, genre, il a vécu très peu de temps en France, et le mec parlait super bien français.
Incroyable.
Il m'a aidé à mettre mon chèche et tout. Ça a été...
Ah, c'est lui, d'accord.
Ouais, j'ai hâte de voir dans la vidéo.
Ouais, je vois la vidéo, et justement...
Ça me fait penser à Star Wars, un peu sur Tatooine, la façon dont il s'habille et tout. Et genre, c'était... Non, franchement, ils ont été hyper accueillants et tout. Alors après, bon, c'est très touristique, hein, comme dans tous les endroits touristiques. Ils vont chercher le touriste. Mais j'ai pas senti le truc en mode... c'était too much, tu vois. Genre, où des fois, c'est le cas.
Oui.
Là, vraiment, genre, c'était une super expérience, de A à Z.
Et justement, donc, tu parles de Petra, c'est l'attraction incontournable de la Jordanie. Je ne savais pas, on l'appelle la Ville Rose. Et ça figure donc dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. C'est une ancienne cité nabatéenne située donc au sud de la Jordanie, qui est donc célèbre pour ses monuments sculptés dans la roche et ses structures architecturales uniques. Ça a été fondé vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et avant, c'était en fait un important centre de commerce. Il y avait des caravanes dans l'Antiquité. C'était un point de contrôle pour les routes commerciales cruciales entre l'Arabie, l'Égypte et la Syrie. Mmh. Et donc l'accès principal se fait à travers le Sikh, donc un étroit canyon d'environ 1,2 km de long, bordé de hautes falaises. Et donc ça débouche sur ce trésor emblématique de Petra, je sais pas si je vais bien le prononcer, mais Al-Kazneh. Et donc Petra, ça abrite aussi des centaines de tombes, de temples, de tombeaux, de structures anciennes. Et est-ce que ça t'a fait cette impression, donc, quand t'es arrivée à Petra devant donc Al-Kazneh, voilà, à tes souhaits, est-ce que ça t'a rappelé cette scène d'Indiana Jones? Parce que ça a été filmé à cet endroit-là, donc que je dise pas de bêtises, c'était Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, donc ça date quand même un peu, où ils arrivent devant le site, et ce passage, ça, apparemment, ça a énormément accru la popularité de ce lieu.
J'ai envie de te dire, Indiana Jones, il faudrait que je me remette un peu au goût du jour, parce que effectivement, je ne me souviens pas du tout de cette scène-là.
Ah, mais tu vas être obligé de regarder maintenant que tu y as
été. Mais en plus, je crois que ça y est sur Disney+. Et j'avais commencé à re-regarder, mais il faudrait que je le fasse, il faudrait que je regarde les différents films.
Mais en tout cas, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand t'es arrivé en face de ça?
C'est magnifique. Après, bon, là, je vais parler aussi à titre très perso, c'est que on sait pas infuser tout le truc à pied, parce que bon, c'est pas non plus hyper accessible, et puis on savait pas trop si la distance, on pouvait pas forcément l'évaluer. Du coup, on a pris des petites voiturettes de golf, là, avec Romain, pour aller jusqu'à la porte, pour aller jusqu'à la porte de Petra. Et non, bah, c'est magnifique, hein, c'est... Voilà, tu te dis que t'es aussi un privilégié d'avoir cette occasion de contempler ça de tes yeux. C'était l'occasion, on en a profité. C'est quand même pas à côté d'Amman, hein, parce que nous, on était à Amman, on a payé un taxi qui a fait 3 heures de route aller, 3 heures de route retour dans la journée.
Ah oui, c'est aussi loin que ça,
ouais,
quand même.
Ouais, c'est pas à côté. Et donc, effectivement, t'es dans un désert, et puis après, t'arrives jusqu'au site. Et une fois au site, du coup, le taxi nous a déposés. On a pris donc les petites voiturettes de golf, là, et puis on a été jusqu'à la porte de Petra. Et là, ouais, c'est somptueux. C'est somptueux. Mmh. Et puis, bon, après, t'as aussi tous les mecs qui sont là pour un peu pour le tourisme. Donc, alors, je sais pas si c'est les dromadaires ou les chameaux. Et non, c'est magnifique. De ce que je sais, c'est que la porte, elle a été sculptée, en fait, de haut en bas. Et en fait, il descendait progressivement pour sculpter. Et genre, le sens du détail et tout, c'est incroyable. Mmh. Et puis après, il y a tout un chemin, en fait, qui va jusqu'à une autre ville un petit peu plus loin. Et en fait, bah, tu te rends compte que c'est un ancien village, etc. Et tout à l'heure, tu parlais que c'était plein de cultures différentes. Bah, tu vois, par exemple, il y a un amphithéâtre. Donc, gréco-romain qui est là. Donc, ça prouve bien aussi que c'était un chemin de passage.
Ouais. Et du coup, je ne saurais plus trop le situer sur une carte. J'ai vu qu'il y avait aussi le désert du Wadi Rum, qui était hyper connu en Jordanie. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le faire aussi. Parce que ça figure aussi dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. Mmh. Et Wadi, en fait, ça signifie vallée. Donc, ça s'appelle la vallée de la lune. Et c'est un paysage désertique très spectaculaire, pardon, avec des canyons, des arches naturelles, des falaises, des rampes et des grottes. Et ça a été le lieu de tournage. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure de Star Wars. Ben, figure-toi qu'il y a des scènes de certains Star Wars qui ont été tournées en Jordanie. Il y a aussi Aladdin, Seul sur Mars et plus récemment Dune.
Ok, d'accord.
Et donc, ils se sont servis de ce fameux désert. Et tout à l'heure, tu parlais de ce monsieur qui t'a mis donc le foulard qu'on appelle le kéfier.
Kéfier, ouais. Kéfier. J'ai dit chèche, mais chèche, c'est plus au Maroc, ouais.
Et donc, de couleur rouge et blanche. Et ça me rappelle aussi, j'ai lu La police du désert, où en fait, les déserts de Jordanie sont protégés par une armée appelée la patrouille du désert. Et en fait, ils montent sur des chameaux, donc t'en parlais tout à l'heure, avec ce fameux... Ce fameux...
Je savais pas.
Kefief, j'arrive pas à bien le
dire. Ouais, je crois que c'est kefief. Ouais.
Voilà, et en tout cas, donc il y a cette police sur des dromadaires pour protéger la Jordanie des trafiquants de drogue et d'armes, et ils surveillent justement ces lieux archéologiques hyper importants.
Ouais, et puis après, c'est un peu comme... C'est un peu comme... voilà, quand c'est un endroit touristique, en général, ils essaient de préserver. Hein, le tourisme, c'est quand même aussi ce qui rapporte de l'argent dans le pays. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre pour plein de raisons sur Terre. Bon, après, je sais pas si je peux faire le lien, mais tu vois, je suis parti au mariage du fils de ma belle-mère au Mexique, dans le Yucatan, et c'est pareil, tu vois, genre... Dans le Yucatan, t'as toutes les milices, les armées, la police possible, genre tu vois que c'est surprotégé.
Oui. Et t'as trouvé qu'il y avait beaucoup de monde à Petra ?
Nous on était en mars, il y avait du monde, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Mmh. Voilà. Et puis encore une fois, l'accueil était ouf parce que Abdallah, à un moment, je suis un peu en galère, il te pousse dans le sable, j'avais ma petite roue devant, etc. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il nous a fait un peu la visite. Tu vois, c'est lui qui nous a un petit peu fait la visite
du site,
ouais, il nous a un peu accompagnés, il nous a raconté 2-3 anecdotes et tout. Donc, je dois certainement en parler dans la vidéo, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui m'ont. Bon, voilà, j'ai quand même une vie très riche, et du coup, des fois. Et c'est là où des fois tu te culpabilises, tu te dis putain, tu vis beaucoup de choses, et finalement, est-ce que tu intègres tout? C'est pas évident. Mais je pense qu'il faudrait partir plus longtemps, en fait.
Bien sûr.
Pour moi, le voyage, si tu pars 5 jours. Voilà, c'était compliqué. Puis bon, là, en l'occurrence, il y avait quand même une démarche professionnelle, donc. Avec une rigueur que j'avais envie d'avoir, un travail à faire, à fournir. Et tu vois, on n'a même pas été visiter la ville d'Amman le soir, parce qu'on était rincés de la journée de tournage, en fait.
Mais au moins, ça t'a donné un petit aperçu. Et puis là, ça nous donne l'occasion de, ouais, d'évoquer ce pays, que c'est les gens y voyagent un peu indirectement, en tout cas. Et est-ce que tu as pu, dans ce court séjour, expérimenter un petit peu la gastronomie là-bas, qui, de ce que j'ai cru comprendre, est aussi très diversifiée ?
Alors, pour le coup, pas du tout. Parce que je te dis, le midi, j'ai pas le souvenir qu'on mangeait trop. Ou alors, ça devait être un peu sur le pouce. Et le soir, on mangeait à l'hôtel. Donc. Enfin, le soir et le matin, donc en fait, c'est comme chez nous, quoi. Mm. Genre, t'as un buffet à volonté, t'as un peu de tout. Je sais plus quel était leur... je suis même pas sûr d'avoir mangé quelque chose de local. Et puis, je te dis, vu qu'on a bossé, vu que ça a été très, très, très court. Tu sais, on est arrivé lundi, on a fait mardi, mercredi, tournage. Jeudi, 3h le matin. Du coup, on a eu début d'après-midi Petra. On est rentré le soir, on était rincé des 6h de route de la journée. Puis, on est parti le lendemain en avion, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, ça a été très 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 court.
Ce sera l'occasion d'y retourner, tu disais, de prendre des nouvelles.
Ouais, ouais, carrément. Et puis, je pense qu'il y a des pays aussi autour qui sont intéressants d'aller visiter. Après, c'est vrai que on nous fait peur dans les médias, mais je pense que le monde, il est pas si hostile qu'il n'y paraît. Après, il y a peut-être des zones à éviter, il y a des choses savoir. Mais c'est comme partout. Moi, après, je pars du principe. Bon, ça, c'est beaucoup depuis que je suis en fauteuil. Je me dis que ce qui doit arriver arrive. Si on veut, s'il doit m'arriver un truc, ça m'arrive. Et je me dis que j'ai quand même un peu le totem d'immunité du handicap, où je me dis, bon, potentiellement, si t'es avec des gens pas trop déshumanisés, il t'arrivera rien. Voilà, il y a aussi des gens très très bien qui vivent dans ces pays-là. Moi, je me souviens d'un Syrien, d'un monsieur, d'ailleurs, qui est dans le. Lui m'avait marqué. Et tu vois, d'ailleurs, il avait beaucoup de problèmes au niveau de la dentition. Et il m'expliquait, Médecins Sans Frontières, que un des premiers soins à donner à ces personnes qui sont victimes un petit peu du pays dans lequel ils sont, de la guerre, de la précarité, etc., c'est les soins dentaires. Parce que t'as beaucoup de bactéries, etc. Et voilà, il y en a beaucoup qui peuvent en mourir. Hein. Nous, ça nous paraît loin, mais finalement, là-bas, c'est plutôt commun. Et ce monsieur, vraiment, le cœur sur la... Ah si, bah tiens, tu réponds à la question. Si, on a mangé un midi avec eux. Et tu vois, regarde, ce qui m'a marqué, c'est que moi, je suis un occidental. Alors, évidemment, occidental, il y a occidental et occidental. Hein, il y a l'opulence, la richesse infinie de certains. Et nous, on est tous plus ou moins pareils en termes de ressources financières. Et ils nous ont invités, tu vois. Ils nous ont rien demandé. Et du coup, c'était un petit peu, alors je sais plus le nom, c'était un peu des galettes avec différentes sauces, etc. Et c'était très convivial. On était dehors, il y a une cour devant l'hôpital où il y a une petite école aussi pour les enfants, pour pas qu'ils perdent un petit peu le rythme et qu'ils perdent le fil. Et t'avais du coup cette table là, et puis tout le monde est venu, donc t'avais des gens de Médecins Sans Frontières, t'avais le traducteur qui était là, t'avais Romain, t'avais moi, t'avais. Les enfants, t'avais les adultes qui nous ont ramené ce qu'il fallait, ils te payent une cigarette, enfin ils ont vraiment le cœur sur la main. Et on a beaucoup discuté, et ce qui était aussi marquant, c'est qu'il y avait beaucoup de sourires et beaucoup de... Voilà, en fait, tu te rends compte qu'on est humain avant tout. Tu vois, il n'y a plus ces histoires de certains trucs où, je sais pas, là il n'y avait que du sourire, on rigolait ensemble, mais pourtant des fois on se comprenait pas tout le temps. Et c'était vraiment un moment qui était... qui est marquant, parce que ça fait du bien en fait de voir ça. Et finalement, même tu te rends compte que quand on parle pas la même langue et que on est, je pense, pour la majorité habité par ce désir en fait de faire plaisir à l'autre, d'être attentif à l'autre, de faire du bien autour de soi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand ils nous ont invités, ils nous ont rien demandé et ils sont arrivés avec tout un truc sur la table. Je crois que c'est dans la vidéo d'ailleurs, on partage un bout de ce moment-là. Enfin, je la regarde cette vidéo parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue.
En plus, je remettrai le lien. Et c'est vrai que j'aime bien dans chaque épisode parler de gastronomie. J'imagine que tous ces assortiments que tu as eus, il y avait peut-être tout ce qui est houmous, falafel, des petits, ce qu'on appelle les dolmas, c'est des feuilles de vigne farcies au riz. Il y a aussi le manzaf, le plat traditionnel à base de riz, de yaourt fermenté, de viande d'agneau. Et pour le petit fun fact, en 2019, en Jordanie, il y a une équipe de 10 chefs cuisiniers qui a battu un nouveau record du monde. Ils ont fait le plus grand falafel jamais cuisiné au monde. Donc le falafel, c'est des pois chiches écrasés. Et du coup, là, ils l'ont fait sous forme de disque et frit dans l'huile. Et ce falafel pesait 101,5 kg, devenant ainsi le plus gros falafel du monde. Et ça a ensuite été distribué aux communautés locales et aux personnes présentes à l'hôtel. Mais voilà.
Ok, trop cool. Bah, tu vois, j'apprends des choses. Donc, non seulement je suis content de pouvoir m'exprimer, et en plus de ça, je vais finir cette journée un peu plus cultivée.
Ben voilà, je suis ravie. Et j'avais noté aussi, tu as justement sur les posts que tu as fait par rapport à ce séjour, tu disais « Merci aux équipes de Médecins Sans Frontières d'avoir pu me faire vivre cette expérience si enrichissante sur le plan culturel, des étoiles dans les yeux, pas de mots assez éloquents pour témoigner toute ma reconnaissance d'être ici et d'avoir le privilège de rencontrer de si belles personnes qui nourrissent encore et toujours mon désir profond d'unir les cœurs. » Et tu termines en disant que l'humanité est belle.
Ouais. Ouais, bah après, je suis quelqu'un qui a des qualités, des défauts, et quand je vois le monde, et j'ai pas envie de croire à ce monde-là, j'ai pas envie de croire au monde qu'on me montre un peu partout, j'ai envie de valoriser ce qui va, j'ai envie de valoriser le positif, j'ai envie de croire en l'humain, j'ai envie de faire confiance, j'ai pas envie d'être réticent dans la confiance que je peux donner à quelqu'un, de peur qu'il me la mette à l'envers. Parce que ça veut dire que tu fais un pas en arrière avant même d'avoir initié quoi que ce soit. Donc je préfère faire confiance quitte à me faire baiser la gueule. Donc je le dis de manière assez cash et peut-être un peu grossière. Alors que j'essaie de nourrir cette élégance que je me dois d'avoir. Et que j'ai envie d'avoir. Du coup j'ai perdu le fil avec mes conneries.
Que l'humanité est belle.
Ouais, non, genre je pense que on est dans un monde qui est complexe, qui est compliqué, et pour autant, tu vois, c'est ce que je te disais juste avant, quand t'es deux êtres humains de deux trucs différents, alors peut-être que tout ne pourra pas coller, parce qu'il y a des codes, des mœurs, des histoires de culture qui peuvent pas toujours s'accorder, pour autant, on peut vivre ensemble, et on peut se rendre compte qu'on peut partager des moments de joie, et que finalement, c'est à la portée de tout le monde. Mmh. C'est à la portée de tout le monde, il faut juste y croire. Alors après, c'est pas être un bisounours ou quoi. Je pense que les gens qui font du mal, au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Et je suis le premier à avoir des fois, moi-même, d'avoir des réflexions. Alors, c'est des choses dont je parle très très peu, hein, parce que t'es vite jugé sur les réseaux. Mais je pense qu'on a tous des comportements qui peuvent être racistes, dans le sens où on connaît pas. Et que des fois, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne. Il y a peut-être aussi un respect à avoir sur certaines temporalités, sur des deuils à faire, de pays, de gens qui ont vécu des drames, etc. Et je trouve qu'on n'est pas assez dans l'écoute. Mmh. On n'est pas assez dans l'écoute, et ça c'est très, très paradoxal ce que je veux dire, c'est que mon métier, moi, c'est de capter l'attention des gens pour leur dire ce que je suis en train de te dire là. Pour autant, est-ce qu'on a le temps de faire... des podcasts qu'on est en train de faire là, où on a le temps en fait de développer une réflexion, de développer un argumentaire, de raconter des choses avec des mots, etc., d'essayer d'apporter de la richesse. Pour autant, tu vois, tu vois que les réseaux sociaux, ils nous baissent le cerveau, je le dis très grossièrement, volontairement, parce qu'en fait on est que sur du format court. Mm. On est sur du format court, c'est du shot de dopamine, en veux-tu, en voilà, et puis finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as vu de toute la journée sur les réseaux sociaux. Mmh. Et je trouve que, tu vois, le fait d'avoir des formats quand même longs comme celui-ci, je trouve que c'est aussi se porter garant, finalement, d'une réflexion qui est nécessaire, en fait.
Bien sûr.
Il faut avoir conscience que... j'en suis le premier victime, hein, je suis créateur de contenu, mais je suis comme tout le monde, je bouffe du contenu, et qui plus est, moi, j'ai pas deux bras, deux jambes, donc j'utilise beaucoup mon téléphone, parce que ça me facilite l'usage de plein de choses. Donc je suis tout le temps en train de passer un coup de téléphone, des mails, de créer mes posts, faire mes montages vidéo. La majorité, je les fais sur mon portable. Et pour autant, vu que je suis sur mon portable, j'ai Instagram, j'ai ci, j'ai ça qui... Mmh. Tac, tac, toi, j'ai les petites... Et tu vois, genre, ce qui est dur, c'est d'en avoir conscience et d'en être victime quand même, tu vois. Mmh. Et pour autant, je trouve que c'est important d'avoir ces réflexions-là. Et tu vois, peut-être même moi, le métier que je choisis de témoigner de mon parcours, etc., c'est peut-être un moyen aussi de me préserver de ça, parce que quand je te parle comme je suis en train de le faire là, finalement, je développe aussi ma réflexion là où je pourrais continuer de me faire baiser le cerveau si je ne faisais pas ce genre d'exercice.
Mais au moins, comme tu dis, t'as cette prise de conscience, donc c'est déjà la première étape.
Bien sûr. Et puis voilà, après, je pense que le voyage, alors tout est discutable maintenant dans un monde aussi qui n'est pas le monde de nos parents, qui n'est pas le monde de nos aïeux, comme on peut dire. Mais le voyage, il faut qu'on soit un peu plus responsable. Pour autant, est-ce qu'on est obligé de blâmer toujours la personne qui a peut-être envie et qui a peut-être ce besoin-là, viscéral, en lui, de se dire bah, moi, il faut que je parte à l'autre bout du monde, là, il faut que je prenne un avion parce que je suis pas bien dans ma tête. Et on n'a pas à juger de ça, en fait. Pour autant, comme tu dis, c'est d'avoir conscience des choses. Et déjà, d'avoir conscience des choses, c'est le béaba pour moi. Moi, je vais jamais juger quelqu'un, même qui est dans l'opulence, qui s'exhibe, etc. Parce que je me dis, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est pas en le critiquant que ça va faire arranger les choses. C'est en posant les choses, en posant les réflexions, en étant le moins clivant possible dans son discours, que on peut éventuellement permettre à des gens de peut-être de prendre conscience d'eux-mêmes aussi et de leur comportement. Et pour revenir au voyage, le voyage pour moi, il est tellement salvateur pour plein de raisons. C'est que t'apprends des autres, t'apprends d'autres cultures. Tu te rends compte qu'on est habité par les mêmes désirs de vivre nos vies, d'être heureux. On est habité par les mêmes questions. On a le même rapport à la mort. On a le même rapport à plein de choses. Et c'est juste que des fois, les gens, ils s'écoutent pas. Et si je peux être un médiateur et un trait d'union, moi, je me dis, je suis pas influenceur, je suis fédérateur. Donc évidemment, on peut pas le dire comme ça parce que ça a pas de sens quand on me présente médiatiquement parlant, j'entends. Mais je pense que c'est important d'être ce trait d'union et fédérateur. Et des fois, je pense que le message, il est aussi sans en parler, dans sa manière de se comporter. C'est déjà avoir un message, sans même forcément l'exprimer. Et c'est pour ça aussi où des fois, je suis frustré et que cet exercice, il est cool, et que tous ces exercices médiatiques sont cool. C'est que ça me permet aussi de mieux comprendre ma pensée pour mieux l'exprimer. Et quand tu dois défendre un monde et des causes et que tu es humaniste comme moi, et tu te dois d'avoir une forme d'excellence pour toucher les cœurs, tu vois, comme je le disais un peu, venir les cœurs. Mais pour les toucher aussi, il faut aussi sortir de sa zone de confort, évoluer en tant qu'humain, et puis garder cette humanité qui est nécessaire. Et pour autant, je suis très conscient de tout ce qui se passe. Je suis pas un bisounours. Mais j'ai envie de... Voilà, même si tout va mal, demain, si tout va mal, j'ai envie de croire à la petite étincelle qui fait que ça va, tu vois. Et Dieu sait qu'il faut se raccrocher à ça, parce que si tu transposes ça à des accidents comme le mien, que d'autres personnes ont vécu, hein, je suis pas le seul, finalement, c'est dans les ténèbres, t'as toujours une étincelle, et la preuve, c'est que moi, j'y ai cru dès le départ, et je dis pas que c'était facile, maintenant c'est facile, enfin c'est facile, à 6 ans et demi d'accident, j'ai fait mon chemin, mais la lumière, elle est nécessaire, parce que c'est grâce à elle que tu peux aller de l'avant, que tu peux avancer, que tu peux permettre à des gens de se retrouver. Tu vois, mon accident, il a permis à ma famille de peut-être se retrouver aussi, de ce que j'essaye de faire à travers les réseaux, etc. Je me rends compte que je suis pas débile non plus. J'ai conscience aussi que j'ai un impact, même si je reste humble par rapport à ça. Parce que syndrome de l'imposteur, tout ça, tu connais. Mais ça va mieux. Ça va mieux parce que je me connais encore plus qu'avant. L'accident m'a permis de me connaître davantage et je connais mes intentions. Évidemment que j'ai envie de m'en sortir et que si demain je peux payer un confort de vie que j'aurais peut-être pas eu sans les réseaux, etc., évidemment que je vais en profiter. Pour autant, ça m'oublie pas de savoir d'où je viens, d'où je reviens et de pas vivre dans l'opulence. Tu vois, genre à un moment donné, moi mon but c'est d'aller toucher peut-être les sphères les plus hautes. Pas pour dire je suis riche et je suis mieux que vous, c'est plus pour dire aux riches. Regardez, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 10 Lamborghini alors que y a des gens qui crèvent la dalle, tu vois. Voilà, je pense qu'il faut vivre confortablement, il faut vivre bien. Je pense que c'est peut-être pas donné à tout le monde, je sais pas, ça c'est des questions philosopho-politiques, ce que tu veux. Mais je pense que j'ai envie de faire partie de ces gens qui à travers la façon de vivre, montrent une forme d'exemple. Et je veux pas non plus être jugé parce que je reste un être humain qui a des défauts, qui a des émotions. Et pourtant, Dieu sait que je prends beaucoup sur moi de par la posture publique que je peux avoir maintenant.
Bien sûr. Et t'as dit plein de choses sur lesquelles on va revenir un petit peu, mais il y a un point sur lequel j'aimerais rebondir. C'est quand tu disais que, en gros, de ce que j'ai compris, tu préfères voir un monde meilleur et partir plutôt optimiste, je mettrai dans les ressources du podcast un livre, alors que je n'ai pas encore lu, mais qui m'attire beaucoup. C'est Frédéric Lopez qui en parle dans son podcast avec Louise du podcast In Power, où c'est en fait un monsieur qui se base sur énormément d'études faites à travers le monde pour montrer qu'en fait, il y a plus de bonnes choses et de choses positives qui se passent dans le monde que ceux dont on a conscience. Et je trouve ça assez intéressant, ça revient à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure aussi par rapport à ce que nous dépeignent les médias sur le climat actuel, qu'au final, on ferme malheureusement les yeux sur plein de choses positives qui se passent. Et ben, je me permets de rebondir à nouveau sur Médecins Sans Frontières. Effectivement, il y a des conflits terribles, mais Médecins Sans Frontières met en place tellement d'actions qui améliorent le quotidien des gens. Et c'est vrai que je trouve que ces actions-là, elles méritent aussi d'être mise en avant et mise en valeur.
Bien sûr. Bon, tu le vois, hein, Médecins Sans Frontières, ils sont dans 70 pays et même moi, j'ai pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai vu un impact ponctuel sur 5 jours, 3 jours sur place où je me suis rendu compte de la valeur de ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'est important. C'est important aussi en termes de... Tu vois, genre, je pense que la remise en question, elle est importante aussi. Mais
moi j'aurais peut-être une question pour conclure ce chapitre sur la Jordanie, et je suis contente parce que les épisodes varient selon l'angle en fait qu'on aborde pour les pays, et toi au final tu y es peut-être resté que quelques jours, mais on a pu aborder plein de sujets sur la Jordanie, les actions qui sont menées là-bas. Qu'est-ce que tu as retenu le plus de cette culture, de ce peuple que tu as rencontré?
Alors moi ce que j'ai retenu beaucoup de Médecins Sans Frontières, c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là-bas, il n'y a pas d'histoire de religion, de pays et tout. Il y avait, dans l'hôpital, tu avais des gens des pays environnants, donc tu allais avoir des gens qui venaient peut-être d'Israël, de Palestine, et Dieu sait que on en entend beaucoup parler en ce moment. Et pour autant, bah, tu vois, quand ils mettent. Quand c'est des gens qui ont du cœur et qui ont des champs de compétences communs, et qui se retrouvent dans un pays. Comme la Jordanie pour œuvrer pour des gens qui sont victimes de la guerre environnante, en fait tu te rends compte que les gens pourquoi en fait le petit peuple entre guillemets il s'entend bien, et pourquoi en fait il y en a qui se foutent sur la gueule, tu vois. Mais parce que ça, c'est encore une fois, bon, c'est ça dépasse ça nous dépasse, et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de donner du crédit au clivage et je pense qu'il y a un gros phénomène de polarité, c'est-à-dire que maintenant c'est soit t'es un camp A soit t'es un camp B, tu peux jamais être dans l'entre-deux. Et la nuance, elle est nécessaire, enfin genre il y a un moment donné, il n'y a pas de parti pris à prendre, et je trouve que des fois il y a des gens, ils sont dans un parti pris, et plutôt que de nourrir la nuance, ils vont être plus d'un côté que de l'autre, et du coup je trouve ça très délétère parce que eux-mêmes vont nourrir des choses en eux, et finalement en fait l'opposition ne fait que se creuser entre les... Et je me dis, putain, mais pourquoi il n'y a pas des gens qui sont capables de faire ce trait d'union-là? Pourquoi déjà, même nous, tu vois, on n'est pas concernés par ce sujet-là? Pourquoi ça prend autant de place médiatiquement chez nous? Enfin, tu vois, il y a plein de questions que je me pose. Pourquoi ça prend autant de place chez nous? Pourquoi c'est... On a l'impression que ça cristallise quelque chose... Enfin, le conflit israélo-palestinien, on a l'impression que ça cristallise quelque chose de mondial. Tu vois, genre, c'est une enclave... Enfin, après j'ai peur de, tu vois, de même d'employer des mauvais mots parce que je m'y connais pas suffisamment, donc je voudrais pas laisser supposer que je suis plus d'un parti que de l'autre. Je suis pour aucun parti, je suis atterré de voir des attentats qui se passent en Israël, et je suis atterré de voir que la réponse qui n'est pas la réponse du petit peuple, qui sont des gens un peu plus cramés en haut, enfin tu vois, il y a un moment donné quand t'envoies des bombes comme ça, je sais pas, et puis en plus de ça nous on est impuissants par rapport à ça. Ça sert à quoi d'en parler? Je suis qui pour en parler? Pour autant, bah, je m'offusque. Je m'offusque. Mais je m'investis pas. Mais en même temps, je peux pas m'investir partout.
Ouais.
Et tu peux pas t'investir pour tous les conflits du monde. Y a trop de conflits dans le monde. Hein. Et puis, tu sais, on parle de l'israélo-palestinien. Y a combien d'autres conflits en Afrique dont on n'a même pas conscience et dont on parle même pas?
Ouais.
Après, c'est loin de chez nous. C'est compliqué. Et c'est aussi ce rapport à soi-même, ce rapport à la société qui est pas évident. Parce que, genre, en plus de ça, quand t'as une posture publique, dès que tu vas aborder ces sujets-là, c'est tout de suite la vindique populaire, c'est jamais la réflexion, c'est... On peut jamais... Enfin, je sais pas, je pense être suffisamment intelligent et prendre du recul et avoir de la... justement, de la nuance pour... pour essayer d'élever un peu le niveau du débat, tu vois, genre c'est pour dire moi j'ai raison, d'un côté comme de l'autre, c'est pisser dans un violon.
Complètement.
Voilà.
Mais par rapport au peuple jordanien, ce que tu as retenu de leur accueil, on va dire ?
Il a été très bien, enfin il a été incroyable. Moi je me suis pas senti... Enfin je me suis pas du tout senti étranger ou quoi. T'es à la maison quoi, genre c'est... On t'accueille à bras ouverts. Après tu vois à l'hôpital à Amman, c'est vrai qu'il y avait plein de nationalités différentes. Donc c'est pareil, je peux pas parler au nom du peuple jordanien parce que finalement je l'ai pas énormément côtoyé. Et puis pareil, les patients que j'ai vus, t'avais des Syriens, t'avais des Palestiniens, t'avais des Irakiens qui étaient là, t'avais des Yéménites, je crois, on dit ça comme ça. Et d'ailleurs, c'était rigolo, c'est que même à un moment, petite anecdote, je pense à ça. Tu vois, ça me fait penser un peu à l'accueil que j'ai eu. T'avais un... Alors, je crois qu'il était du Yémen, ce monsieur. Et je lui dis, il me dit, mais viens à la maison et tout, je t'invite, tu viens quand tu veux et tout. Et je lui dis, Et je dis, ta salle de bain, elle est accessible. Et il me dit, bah, c'est pas grave, je te construirai une maison avec une salle de bain accessible. Et je crois que c'était dans la vidéo, d'ailleurs.
Ouais.
Et tu vois, on sourit et c'est chouette, en fait, de voir ça. C'est chouette parce que tu te rends compte que finalement, t'as quand même beaucoup de personnes... qui veulent le bien.
Mmh. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Et y a une phrase qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse », bah, ce qui est vrai, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on entend plus ceux qui veulent créer ces clivages, qui veulent créer de la polarité, plutôt que des gens qui veulent bien. Je pense qu'il y a une grosse majorité silencieuse de gens qui sont comme tout le monde, et on le voit. Moi, à chaque fois que j'étais dans un pays, je me suis jamais senti... en insécurité. Après, bah, ça peut arriver que tu tombes au mauvais moment, au bon endroit, au mauvais endroit, et pour autant, est-ce que, je sais pas, demain je vais au Mexique, si je me fais agresser par un Mexicain, est-ce que tous les Mexicains sont des connards ? Bah non, je pense pas, tu vois.
Bien sûr, faut pas partir sur les généralités.
Voilà, et je pense que ça, c'est un truc qui est un peu compliqué, c'est que je trouve qu'on part beaucoup dans les généralités. Donc voilà, et j'ai pas envie de... Pour moi c'est un problème d'éducation, c'est un problème de non-considération du problème de l'autre, et puis je pense que le problème il est plus global, c'est-à-dire que quand t'as des gens comme ça qui pètent des câbles, qui font des attentats et tout, c'est que c'est des mecs c'est des actes manqués, tu vois, dans l'éducation, et putain, genre Dieu sait que t'as des assos qui s'investissent de ouf. Et encore une fois, hein, c'est l'ère de la guerre, c'est l'argent pour mettre en œuvre des actions et tout. Et pour autant aussi, est-ce que le monde ne sera pas toujours comme ça ? Parce que tu peux pas gérer tous les problèmes de tout le monde.
Ouais.
Regarde, tu vois chez nous, tous les Occidentaux, on n'est pas les plus à plaindre. Quand je vais en Jordanie, je me rends compte, je relativise de plein de choses. Et pour autant, il n'y a jamais eu autant d'antidépresseurs qui ont été vendus, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont un sentiment de mal-être. Et tu vois, des fois, et humblement, je dis ça, je me dis, est-ce que mon témoignage, il peut pas peut-être apporter un petit peu plus de relativisme à sa vie ? Moi, tu vois, genre avant, je m'en rendais pas compte. Et c'est quand tu parles des choses que tu te rends compte. C'est triste, oui et non, je sais pas. Mais tu vois, genre avant, moi, j'avais ma moto, je faisais du sport, et j'avais ma copine, j'avais mes études, et j'avais pas besoin de plus. Je roulais pas sur l'or. Maintenant non plus, sans mauvais jeu de mots.
Je me suis dit, est-ce qu'il va la faire ? Oui, il va la
faire. Bien sûr, je vais la faire. Je me fais une joie de la faire. Mais je pense qu'on n'a pas conscience de plein de choses. Tu vois, moi, demain, je vais aller faire une randonnée. Bah, je peux pas. Si je veux aller en faire, il faut que j'ai du monde. Donc j'ai de la dépendance à la personne, c'est de la charge mentale. J'ai envie d'aller faire une randonnée avec du matos adapté. Bah, il y a des trucs qui existent, ça vaut du matos, ça vaut 10 000 euros, un petit truc à 4 roues électriques pour aller un petit peu plus en montagne ou faire de la descente en montagne. Et puis c'est pareil, comment je l'entrepose chez moi ? Comment je le transporte ? Pour le transporter, il me faut un véhicule qui est adapté, qui est grand, avec la remorque, il faut que j'apprenne. Sauf qu'il n'y a pas de cours pour prendre des... Enfin, tu vois, genre, tout peut tout devenir très vite très compliqué. Et je me dis... Tu vois, tout ça, c'est là aussi, je me dis, putain, la responsabilité qu'on a sur les réseaux, c'est que cette richesse qu'on exhibe, etc., je pense qu'elle est hyper délétère, en fait, pour plein de gens. Parce que les gens, ils disent, c'est le point à atteindre pour être heureux, alors qu'en fait, non. T'as plein de gens qui disent que quand ils ont de l'argent, c'est pas plus ou pas moins. Après, j'ai entendu des trucs, et oui, c'est vrai que c'est une réalité, quand t'as de l'argent, c'est plus facile. Mais des fois, est-ce qu'on peut pas se satisfaire de ce que l'on a quand on sait que la plupart des choses en France, elles sont gratuites? Si tu vas aller en nature, si demain tu vas aller faire de la nature, t'as pas besoin des milliers de cents. Tu t'achètes un vélo d'occasion, si vraiment t'es déter, hein, vraiment dans l'extrême. Mais tu peux aller faire une balade en vélo, ou même tu pars sur plusieurs jours en vélo, plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, de prendre un avion, et d'aller te faire une rando dans les Pyrénées ou dans les Alpes, tu vois.
Où tu vas te balader en écoutant un podcast sur les voyages, par exemple.
Exactement, dans un lac près de chez soi. Tu vois, le voyage, je sais plus, il y a une citation, alors je saurais plus la dire exactement, mais une citation qui dit ça, qui est le voyage, il commence vis-à-vis de soi-même, et finalement, dès que tu ouvres la porte de chez toi. Et ce qui est vrai. Des fois, j'ai fait des très belles rencontres. Bah, regarde, mon meilleur ami, je l'ai rencontré, c'était un mec qui était dans mon immeuble, tu vois. Et je suis sorti de mon appart, je me suis retrouvé à aller en cours à la fac, j'étais en retard, et puis je vois un petit gonze qui court et qui loupe son bus. Je m'arrête, je dis, t'es pas dans mon amphi, toi? Je dis, allez, monte. Et puis du coup, genre, hop, tac, j'emmène Anto. Et puis Anto, on s'est plus jamais lâché, tu vois.
Oh.
Et en gros, c'est devenu mon meilleur pote, alors que rien ne prédestinait à le prendre dans ma voiture à ce moment-là, d'aller à la fac. Le soir, on fait une soirée ensemble, ça se passe bien. Et puis finalement, c'était mon voisin de deux étages en dessous de moi. Voilà, on a passé 5 ans comme ça ensemble, on partait après tous les étés ensemble. Et bref, ça c'est un voyage aussi, tu vois, l'amitié, l'amour, tout ça, c'est des voyages. Et je pense que des fois, on veut voir, il faut voir en grand, il faut pas s'empêcher de rêver, mais il faut aussi laisser le temps aussi de, comme je disais tout à l'heure, le temps fait son œuvre aussi, que ça soit pour l'acceptation, le lâcher prise, la réflexion, la maturité, et puis les points à atteindre. Genre, moi, les gens, ils s'imaginent que ce que j'ai en ce moment. Bon, parce que là, l'actualité, c'est que j'ai un van aménagé depuis peu, qui m'a coûté quand même un peu d'argent. Ouais, mais les gars, j'ai pas mis ça du jour au lendemain. Ça fait 6 ans et demi que je bosse, que je fais un travail de l'ombre qu'on voit peut-être pas. Et voilà, c'est. Et pour autant, tu vois, genre moi, ça m'a coûté 50 000 euros le van, en occasion, hein. Là où il a coûté 82 000 initialement. D'ailleurs, pour la petite histoire, la personne. C'est aussi un moyen de lui rendre hommage, c'est que la personne n'a pas pu en profiter, celle qui avait fait aménager ça. Elle l'a fait pendant 2 ans, malheureusement elle est décédée, et c'est son fils qui le vendait. Du coup, il l'a vendu à un prix qui était intéressant, évidemment pour moi, et je pouvais pas sauter, enfin, passer cette occasion-là, mais c'est quand même 50 000 euros, c'est quand même pas rien. C'est énorme, 50 000 euros. Mais ces 50 000 euros, moi, ils me permettent d'aller voir un coucher de soleil à l'océan, à la montagne, là où peut-être toi. Tu loues une voiture, tu peux y aller peut-être en vélo, t'habites peut-être même sur place, tu peux prendre des chaussures de rando, tu peux aller te balader sur la plage. Moi, quand je vais à la plage, je peux pas aller me balader dessus, tu vois. Et je pense que, voilà, ça, c'est apprendre la relativité, c'est pas dire vous avez de la chance et pas moi, c'est ayez conscience des choses et posez-vous des questions. Mais c'est pas moi qui vais dire aux gens quoi penser, parce que j'ai pas envie d'être dans le jugement, parce que chacun a ses raisons, en fait, tout simplement.
Et oui, cette première partie touche à sa fin. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura permis de vous évader, de voyager et d'en apprendre un petit peu plus sur les actions de Médecins Sans Frontières à l'étranger. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie où Martin reviendra sur cette résilience incroyable qu'il incarne. Il nous parlera de sensibilisation et d'inclusion, mais aussi de notoriété, de responsabilité et de prise de conscience. N'oubliez pas que vous avez toutes les informations nécessaires en description de cet épisode pour pouvoir faire un don à Médecins Sans Frontières, que ce soit par SMS ou sur Internet. N'hésitez pas à me tenir informé de votre don pour qu'on puisse mesurer notre impact tous ensemble. Et bien évidemment, je rappelle que cet épisode a été effectué dans le cadre du Podcaston, cette initiative caritative qui mobilise le monde du podcast au profit de nombreuses associations. Encore une fois, vous avez toutes les infos en description. Merci à vous, merci pour votre écoute. À bientôt.